Am Bistro Matavox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Am Bistro Matavox. Mein Name ist Melanie Czarnik, an mir vis-à-vis sitzt Tatjana Salvan, die sich diese Woche mit einem Thema beschäftigt hat, das räumlich ganz weit weg ist, aber doch einen direkten Impact auf eist Liebe hat. Bonjour Tatjana.
Bonjour Melanie, bonjour à toutes et à tous.
Tatjana, ton article décrit comment des millions de débris spatiaux gravitent autour de la Terre, augmentant le risque de collision. Pourquoi ce problème s'est-il tellement aggravé ces dernières années ?
Alors effectivement, le problème s'est vraiment beaucoup aggravé ces dernières années. C'est dû à plusieurs choses. Déjà au fait qu'il y a de plus en plus de lancements qui ont été effectués. En 2023, il y a même eu un record de lancements, puisqu'il y en a eu 211 qui ont été réussis. Ces 211 lancements ont permis le déploiement de près de 3000 satellites. C'est énorme. Et il faut savoir que chacun de ces lancements génère des déchets. Il y a par exemple le premier étage du lanceur qui se détache. Lors du déploiement des satellites, il y a des boulons qui sont éjectés, des câbles, des sangles, tout un tas de choses. Il y a aussi des phénomènes d'explosion qui se produisent dans l'espace. C'est dû aux restes de carburant et aux batteries. Quand ça arrive, ça génère de nombreux autres débris. Et c'est ce qu'on appelle des déchets de fragmentation. Il y a également les débris générés en toute conscience. Je pense notamment à la fois où la Russie a pulvérisé un de ses satellites. Ça avait généré à peu près 1500 débris visibles et ça avait même créé une grosse frayeur aux astronautes de l'ISS. Ils avaient dû se réfugier dans des vaisseaux amarrés à la station et se préparer à une évacuation d'urgence. Et il y a enfin les collisions. Elles arrivent entre les satellites et les débris ou entre les débris eux-mêmes. Et là, ça crée évidemment d'autres débris. C'est un phénomène qui va en s'amplifiant au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus d'objets en fait, dans les orbites.
Et quel danger ces débris représentent-ils ?
Alors, il y en a un certain nombre, déjà sur le plan matériel, parce qu'il faut savoir que ces débris en orbite se déplacent à une vitesse folle. Par exemple, un débris qui mesure 1 cm, alors, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, mais on va dire que grosso modo, ce débris d'un centimètre se déplace en moyenne à 7 ou 8 km par seconde, c'est-à-dire environ à 30 000 km par heure. Et à cette vitesse, une toute petite bille d'un centimètre, elle peut avoir le même impact qu'une grenade. Donc, on peut facilement imaginer les dégâts que ça peut causer sur un satellite, sachant qu'en plus, un satellite, ça vaut au moins plusieurs centaines de millions de pièces. Comme nos sociétés, elles sont très dépendantes des services satellitaires, et de fait, ça peut potentiellement peser un risque sur le fonctionnement actuel de nos sociétés. Et puis, si ces débris représentent un risque pour les satellites, ils représentent forcément aussi un risque pour les vaisseaux. Donc, ils peuvent mettre en danger la vie des astronautes. Comme je le mentionnais tout à l'heure, l'ISS a dû parfois manœuvrer pour éviter des débris. Elle le fait désormais plusieurs fois par an, alors que c'était quelque chose de très rare par le passé. Le risque que le ciel nous tombe sur la tête est moindre pour nous, les terriens, mais il n'est pas nul non plus. Le risque est faible, pourquoi ? Parce qu'en fait, la surface de la Terre, elle est recouverte environ à 70% par les mers et les océans. Donc la probabilité qu'un objet tombe de manière totalement incontrôlée sur une région habitée, elle n'est pas très très grande. Mais, comme je le disais, le risque n'est pas nul non plus. En 2020, par exemple, il y a un morceau d'une fusée chinoise, un morceau de plusieurs tonnes quand même, qui s'est écrasé près d'un village en Côte d'Ivoire, heureusement sans faire de blessés. En début d'année aussi, la NASA a confirmé qu'il y avait bel et bien un débris issu des déchets de l'ISS qui avait touché une maison en Floride. Alors pour rappel, en fait, l'ISS en 2021 avait largué plusieurs tonnes de palettes contenant des batteries usagées qui étaient censées mettre 2 à 4 ans pour arriver sur Terre et qui devait se consumer en fait dans l'atmosphère. Bon, visiblement, il y a eu un petit loupé. À ce jour, il n'y aurait qu'une seule personne qui aurait été touchée par un débris spatial. C'est une Américaine de l'Oklahoma qui a reçu un petit bout de débris sur l'épaule en 1997. Elle l'a rapporté, le débris a été analysé, ce qui a permis de confirmer qu'il venait bien de l'espace. C'est en tout cas la seule à s'être manifestée.
Comme tu l'as déjà dit, notre société moderne dépend fortement des satellites, par exemple pour le GPS et les télécommunications. Que se passera-t-il si ces satellites étaient endommagés ou détruits par des débris spatiaux?
Alors, même si nous utilisons aussi les câbles sous-marins, nous sommes effectivement devenus très dépendants aux services satellitaires. Il y a, dans un article, la BBC a essayé d'imaginer ce qui se passerait s'il n'y avait plus aucun satellite fonctionnel. Eh bien, même si c'est difficile de mesurer les conséquences qu'il y aurait et de savoir à quel point nos sociétés seraient résilientes vis-à-vis de ça, ou pas d'ailleurs, on peut en tout cas affirmer qu'à minima, tout fonctionnerait au ralenti. On pourrait oublier la télévision numérique, le cloud et le GPS, comme tu l'as mentionné. En fait, ce qui aurait, à n'en pas douter, un impact sur les routes, parce qu'il faudrait revenir aux bonnes vieilles cartes routières et aux panneaux de signalisation. De la même manière, ça poserait des problèmes pour le trafic aérien. Il pourrait revenir à des techniques plus classiques de guidance, mais le problème, c'est qu'entre-temps, le trafic a largement augmenté, donc il y a de gros risques d'accidents. Il y aurait aussi un fort ralentissement de l'approvisionnement des supermarchés, notamment parce que les ports et les services de navigation, le système des grues dans les ports de marchandises dépendent du système GPS. Et surtout, les systèmes GPS et Galileo sont dotés d'horloges atomiques. Et sur ces horloges atomiques sont réglés de très nombreux services que nous utilisons à l'heure actuelle. Donc, entre autres, il y a le système financier, par exemple, qui repose sur l'horloge atomique pour les transactions. Donc, on peut imaginer que si le système tombe en panne, les transactions seraient stoppées, et ce qui aurait de grosses conséquences sur le système financier, sur même les transactions quotidiennes, l'utilisation de nos cartes bancaires, par exemple. Donc, on pourrait envisager un effondrement, en fait. Et il y a également les réseaux électriques qui dépendent beaucoup de cette horloge. Ils s'en servent pour réguler les flux d'électricité. Donc ça, c'est que quelques exemples.
L'article mentionne SpaceX et Amazon Kuiper comme des acteurs importants dans l'espace. Comment ces entreprises contribuent-elles à l'augmentation des débris spatiaux avec leurs nombreux satellites? Et quels risques cela engendre-t-il?
Alors, plus l'espace est saturé, plus il y a de risques de percuter ou de se voir percuter par un débris ou un satellite déjà existant, et donc de générer des déchets. Et comme je l'ai mentionné aussi tout à l'heure, chaque lancement génère des déchets. Or, il se trouve qu'Amazon Kuiper a déployé à peu près 3200 satellites, et SpaceX en possède 6000, qui forment la fameuse constellation Starlink. Les satellites de SpaceX, en plus, ils sont tous situés sur une même orbite, à peu près à 550 km d'altitude. Donc ça crée une zone relativement encombrée, même si l'espace reste grand, attention, hein, y a encore de la place. Mais ça multiplie le risque de collision. Il y a également un autre problème qui concerne tout particulièrement SpaceX, même si ce n'est pas un cas isolé non plus, c'est le manque de transparence de cette entreprise. Elle communique très peu sur ce qu'elle fait, sur les manœuvres qu'elle effectue, sur les problèmes qu'elle peut éventuellement rencontrer et la manière dont elle les gère. Elle fait un peu tout dans son coin en fait. Or, la communication entre les agences spatiales et les opérateurs, elle est essentielle pour limiter les potentielles collisions. Et ça, ça reste un gros problème dans l'industrie spatiale à l'heure actuelle.
SpaceX, c'est l'entreprise d'Elon Musk, non?
Oui, tout à fait.
Et Amazon Kuiper, c'est le même Amazon de Jeff Bezos?
C'est ça, c'est les concurrents sur Terre et dans le ciel.
Ah, waouh! D'accord, merci. L'une des solutions proposées pour les débris spatiaux est de les faire entrer dans l'atmosphère pour qu'ils se désintègrent. Mais que faire des parties qui ne brûlent pas et tombent dans l'océan? Ne risquons-nous pas d'aggraver la pollution marine?
À l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre choix que de faire tomber certaines parties dans l'océan. Il y a des parties qui ne se consument pas quand elles rentrent dans l'atmosphère. C'est par exemple le cas de certaines parties des satellites d'observation. Elles ont été conçues à dessein pour résister à des températures extrêmes, justement parce qu'il faut une grande stabilité thermique pour obtenir des images bien nettes. Donc elles sont constituées de matériaux isolants et résistants. On les fait tomber dans la mer en premier lieu pour éviter qu'elles n'atterrissent dans des régions peuplées. C'est souvent le point Nemo qui est visé. Ce point est situé dans le Pacifique Sud et c'est le point le plus éloigné de toute terre émergée sur la planète. Il est situé à environ 2700 km des côtes. L'idée est avant tout d'éviter un drame humain. Alors évidemment, ça peut créer de la pollution marine, mais il se trouve que des scientifiques ont évalué que dans cette zone, la biomasse et l'activité métabolique, c'est-à-dire la vie, la présence d'espèces végétales et animales, elle est assez faible. Donc envoyer des débris dans cette zone, c'est un moindre mal. C'est pas une solution parfaite, c'est plutôt la moins mauvaise pour l'instant. Alors, pour limiter ça, les scientifiques travaillent justement sur la création d'objets qui seraient entièrement consumables lors de leur entrée dans l'atmosphère. Ça représente un vrai défi technologique. On appelle ça « design for demise », ça signifie « conçu pour se consumer » ou « conçu pour disparaître ». C'est tout l'objet de la mission Draco de l'Agence spatiale européenne. Cette mission, elle sera lancée en 2027. Il y a un satellite qui va être envoyé dans l'espace et redescendre et qui va se consumer. Dedans, il y aura une boîte noire qui va recueillir toutes les données concernant la rentrée atmosphérique et la désintégration du satellite. Grâce à cela, les ingénieurs pourront ensuite tout faire pour fabriquer des satellites qui se consumeront mieux. Et peut-être qu'à terme, il n'y aura donc plus besoin de viser la mer.
L'article évoque aussi la charte zéro débris de l'ESA, qui doit entrer en vigueur à partir de 2030. Quels défis ces projets présentent-ils et est-il réaliste que l'industrie spatiale atteigne cet objectif?
Alors, la charte zéro débris, elle n'entrera pas en vigueur en 2030, mais elle prévoit qu'un certain nombre d'objectifs soient atteints à cette date. Alors, ça implique que le travail commence dès maintenant et ça soulève bien sûr de très nombreux défis. Des défis en partie techniques et technologiques pour permettre de limiter la création de débris dans l'espace, mais aussi de désorbiter le matériel en fin de mission et également parvenir à observer les objets de moins de 5 cm par exemple, parce que pour l'instant, on ne peut détecter que les objets de plus de 10 cm. Il faut aussi que les signataires parviennent à mieux communiquer leurs informations entre eux et à mieux coordonner le trafic spatial. La communication et un peu plus de transparence, c'est vraiment essentiel. Alors, est-ce que c'est réaliste? On peut supposer que même si cette charte est exigeante, elle est un minimum réaliste, puisque ce sont les acteurs eux-mêmes qui l'ont écrite de manière collaborative. C'est d'ailleurs la première du genre à rassembler autant d'acteurs différents du secteur. Ils ont dû forcément trouver des ambitions atteignables, même si elles supposent que de gros efforts soient faits, que ce soit en termes de bonne volonté ou de technologie. L'autre problème, c'est que toute l'industrie spatiale n'est pas signataire. Il y a une centaine d'acteurs qui ont signé cette charte, mais c'est loin d'être signé de manière unanime par tous les acteurs de l'industrie. SpaceX, par exemple, pour ne citer que cette entreprise, elle ne l'a pas encore signée. On peut cependant espérer que si ces bonnes pratiques sont appliquées, ça finisse par inspirer les autres acteurs du secteur et que ça provoque une réaction en chaîne plus vertueuse, celle-là.
Dans tout cela, quel est le rôle du Luxembourg ?
Alors, le Luxembourg s'est fortement positionné sur la question de la durabilité dans l'espace. C'est d'ailleurs tout l'objet de la stratégie de l'Agence spatiale nationale. Il y a environ 80 entreprises du secteur spatial qui sont installées au Luxembourg. Et parmi ces 80, il y a une petite dizaine qui travaillent spécifiquement sur la durabilité dans l'espace. Il y a en particulier l'entreprise ClearSpace qui travaille directement avec l'Agence spatiale européenne et qui va jouer un rôle essentiel pour une mission sur le thème de la durabilité qui est planifiée pour 2028. Plusieurs laboratoires de l'Université de Luxembourg se penchent aussi sur cette question de la durabilité. La durabilité, en fait, peut représenter un véritable business. Donc, il y a pas mal d'entreprises qui peuvent trouver un intérêt à se lancer dans ce secteur. Maintenant, il y a toute une problématique autour de la question du financement qui n'est pas encore résolue.
Merci beaucoup pour cette conversation, Tatiana.
Merci, Mélanie.
Si vous voulez en savoir plus sur la question des débris de l'espace, vous pouvez retrouver l'article complet sur vox.lu ou cette semaine dans vos kiosques. Vielmals merci auch für das Lauschen. Bis nächste Woche. Schönen Weekend. Bon Weekend.
Bon Weekend.
Das wäre es für das Episode von Ambistro mit der Vox. Dieser Podcast wird produziert von der Wochenzeitung Vox und zusammen erwischt mit Radio Ara. Musik kommt von Throw und steht in der Dinger Creative Commons Lizenz. Ihr fand Ambistro mit der Vox auf den gängigen Podcasting-Plattformen und auf vox.lu. Die Vox ist auch aktiv auf Twitter und auf Facebook. Wir freuen uns über die Likes. Bei Vox fand ihr alle Freuden um Kiosk.